vallée des Pyrénées ou en Auvergne qu'au centre de Paris. Mais l'idée, c'était que vous ayez la même chose. Et le démantèlement, étymologiquement, démanteler, c'est enlever.
C'est-à-dire que, bien sûr, qu'on avait la même chose, parce que là, il y a 100 lignes téléphoniques groupées dans un quartier de Paris et une ligne téléphonique au fond d'une vallée des Pyrénées. Mais les 100 lignes téléphoniques qui sont groupées rapportent suffisamment pour qu'on puisse payer la ligne isolée dans les Pyrénées. Donc, c'est l'idée de solidarité, ce qui est à la base de tous ces services publics, c'est l'idée de solidarité. Et c'est, on le voit en le même, avec quelques notions d'histoire, il suffit d'être un peu allé à l'école et d'avoir compris ce qu'était la République par rapport à l'Ancien Régime. La République, grosso modo, transporte, est portée par cette idée de solidarité et d'égalité. Et c'est ce qui construit notre doxa, enfin ce qui est évident pour chacun d'entre nous. Or, on ne parle que de la lettre qu'on va porter au fond de la vallée et qui, évidemment, va coûter cher par rapport au prix du timbre. On ne parle que de ça et on dit « c'est pas rentable ». Et là, on a la notion de rentabilité. Qu'est-ce que c'est que la rentabilité? Est-ce que c'est ce luxe formidable et génial que la petite dame qui est au fond de la vallée reçoive la lettre de sa petite fille qui est je ne sais où pour les fêtes de fin d'année? C'est merveilleux, c'est formidable. Ça, il y a une rentabilité. Il y a une rentabilité humaine, de solidarité, de valeur, etc., auxquelles nous sommes tous attachés. Est-ce que c'est ça la rentabilité ou bien est-ce que c'est la valeur du timbre?
Oui, c'est ça. Mais ça va même plus loin encore que la rentabilité sociale par rapport à une vieille dame. C'est la question du développement du service public n'est pas juste une dimension altruiste. C'est aussi des dimensions qui ont à voir avec la puissance d'un État. La puissance d'un État, c'est notamment sa capacité à avoir de l'aménagement du territoire. Il y a eu des politiques qui, notamment toutes les politiques de décentralisation et toutes les politiques d'aménagement du territoire des années 60, etc., visaient à lutter contre l'ultra-centralisation parisienne antérieure. C'est-à-dire en disant, bah, en France, finalement, il y a Paris. Et puis, comme le disait un auteur fameux, le désert français. Bah, précisément, le service public, c'est ce qui organise aussi, tout simplement, l'occupation du territoire. C'est-à-dire que si vous voulez être en Auvergne et que vous voulez pouvoir vivre en Auvergne, il y a quand même un certain nombre de services minimums dont vous avez besoin. Vivre dans un village quand vous n'avez pas d'école, vous n'avez pas de service de santé, vous n'avez rien du tout, c'est juste tout simplement impossible. Ce qui est très intéressant dans le mouvement que l'on voit s'accélérer, je dirais, à partir du début des années 2000, c'est précisément qu'on a des logiques complètement contradictoires dans ce mouvement. C'est-à-dire qu'on a d'une part des logiques qui ont à voir avec l'aménagement du territoire, avec le maintien des territoires ruraux, donc y compris d'ailleurs des lois qui organisent cela, qui disent, mais attendez, si vous vous installez dans telle zone, des entreprises vont avoir des exonérations de charges pour qu'elles aillent s'implanter dans des endroits qui sont peu peuplés, pour éviter ce genre de désertification, et à la fois la logique que vous venez de décrire, qui est de dire bah, finalement, combien ça coûte, coût-bénéfice, bah, des lignes TGV, ça rapporte plus que ça ne coûte, des lignes de TER, ça coûte plus que ça ne rapporte, donc on ferme les lignes TER et on maintient les lignes TGV. Je crois que ce qui est très important là-dedans, c'est que finalement, ce qui s'est transformé, c'est la logique même qui sous-tend la question d'une grande partie de l'activité publique. On peut et on doit, à mon sens, assumer qu'il existe un certain nombre d'activités qui ne sont pas des activités rentables, qui doivent être régies par la loi du marché. C'est précisément le service public, le garantie d'un service de service minimum à la population pour, sur un certain nombre d'items que l'on peut définir politiquement, la santé, l'éducation, etc. C'est quelque chose qui peut se faire par la répartition collective, c'est-à-dire par l'impôt, par ce genre de choses-là. Je crois que l'invasion de la logique du coût, qu'on la voit dans tous ces secteurs-là, elle devient justement délirante. Il y a une anecdote qui est, je crois, très marrante là-dessus, c'est ce qu'on a vu avec les mouvements pour la neige au moment des fêtes de fin d'année. Si vous prenez l'équipement, l'équipement avait, dans le passé, tout simplement ces déneigeuses qui étaient concentrées à divers espaces du territoire. On a dit, non, ça c'est coûte beaucoup trop cher parce qu'il faut à chaque fois un gardien, il faut un dépôt, il faut des mécaniciens. On va concentrer les gardiens, les mécaniciens et toutes les déneigeuses au même endroit. Sauf que quand il y a de la neige, ça veut juste dire que les déneigeuses, elles sont bloquées au même endroit. Et donc elles ne peuvent sortir que tout doucement du premier dépôt pour aller déneiger les routes. Et donc, on a des embouteillages incroyables, alors qu'apparemment, puisqu'elles étaient en 10 points différents, tout simplement, elles pouvaient se rejoindre. Et c'était ça, la logique.
Alors, s'agissant du pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous attendez de moi?
Nicolas Sarkozy, 8 janvier 2008.
Que je vide des caisses qui sont déjà vides?
Le plan de secours aux banques décidé par la France le 13 octobre 2008 prévoit une garantie des prêts interbancaires s'élevant à 320 milliards d'euros. Budget général de la France pour 2007. Travail et emploi.
Qu'est-ce que vous attendez de moi?
12 milliards d'euros.
Que je vide des caisses qui sont déjà vides?
François Fillon, 21 septembre 2007.
Il faut utiliser des images, et c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, pour faire comprendre à des agriculteurs qui demandait toujours plus.